le 7-9. Sur France Inter.
Charline Vanhoenacker, 7h58. Poursuivons à propos de la promotion Léopold Sédar Senghor Aléna.
Ah, comme vous, je suis fascinée par autant de succès concentrés dans une seule classe. À mon avis, à ce moment-là, dans l'astrologie chinoise, c'était l'année du requin. La promotion Senghor de l'ENA, ce n'est pas l'élite, c'est l'élite de l'élite. C'est le Real Madrid de l'administration. Hein, je peux vous dire que dans une promo pareille, les feignants et les cyniques, ça dégage direct. Hein. Après, quand tu vois comment la France de Macron traite les chômeurs et les réfugiés, je ne sais pas si Senghor serait très fier d'être impliqué. Je pense que promotion Jacques Attali est plus cohérent, mais c'est un détail. Parce que quand tu montres la photo de classe, que tu as numéro 2 de la BPCE, hein, deuxième groupe bancaire de France, numéro 2 de la SNCF, conseiller ministériel, président de la République, on en a plein les mirettes. Hein. Mais si cette promo a piqué tous les postes à responsabilité en France, je ne vois plus du tout l'intérêt de faire l'ENA. Je dis aux étudiants, ne vous fatiguez pas. Les types ont à peine 40 ans, il va falloir attendre 20 ans avant qu'ils lâchent l'affaire. Hein. Et puis attention, la promo Senghor a chassé la promo Voltaire, Hollande, Sapin, Villepin. Dans ce milieu, il faut être rapide au jeu des chaises musicales. Il n'y a aucun respect pour les aînés. C'est une catégorie de population qui a des problèmes avec l'autorité jusqu'à ce qu'elle s'en empare. Dans cette fameuse promo Macron, il y a aussi la favorite pour la présidence de Radio France. Alors on l'embrasse, je me sacrifie pour le dire. Sybille Veil, on l'embrasse. C'est maintenant que je me rends compte que j'avais aucune chance. J'avais aucune chance à la présidence de Radio France. Et pourtant, j'ai le même âge, j'ai 40 ans, j'aurais pu en être. Mais j'ai fait Sciences Po à Bruxelles. L'année où Macron baptisait sa promo Léopold Sédar Senghor, moi je sortais de la promo Wilfried Van de Pute, pour être bruxellois. Ça claque moi, je sais. De toute façon, comment prétendre à un poste clé, moi qui passe mon temps à chercher les miennes. Ah ouais, là je suis tombée dans la blague, c'est mon métier maintenant. Et puis moi, j'ai pas pensé à créer mon réseau. Voilà. Aujourd'hui, je serais peut-être à tu et à toi avec le patron des frites surgelées Krusty Belga, on ne sait pas. Voilà. Le réseau, c'est important. C'est rassurant de savoir qu'ils se connaissent tous. Quand on sait que le directeur adjoint de la SNCF se torchait la gueule au karaoké avec Macron il y a 15 ans, on se dit, ça va peut-être faciliter les négociations pour les cheminots, hein? Pensez pas? Bon. Pour terminer, Macron cite souvent Victor Hugo. 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse. Alors, vous savez quoi? Moi, je m'en tape, hein, tant que j'ai encore assez d'énergie pour aller gueuler dans les manifs.
Ah, merci beaucoup, Charline Vanhoenacker. Et à 17h pour votre émission par Jupiter. Merci à vous de nous écouter, de nous rejoindre. France Inter, 8h. Le journal. Bonjour Marc Fauvel.
Bonjour à tous. À la une ce matin, des trains bondés ou alors au compte-gouttes, chacun s'organise comme il peut en cette première journée de grève en pointillé à la SNCF. Nous irons en banlieue parisienne. Le front syndical serait-il déjà en train de se fissurer? Le leader de la CFDT, Laurent Berger, tend la main au gouvernement ce matin. Vous entendrez la réponse du leader de la CGT, Philippe Martinez. Il est votre invité, Nicolas, à 8h20.
Et vous aurez la parole vers 8h30, 8h35, amis auditeurs. Vos questions, 01 45 24 7000.
Voilà, des trains à l'arrêt donc, mais aussi des avions avec une grève aujourd'hui à Air France. La conséquence, ce sont des bouchons qui s'accumulent ce matin sur les routes. Damien Trillon, vous êtes au PC Mobilité.
Oui, c'est simple. Partout en France, autour des agglomérations, on retrouve des bouchons sur les mêmes axes qu'habituellement, mais on les a retrouvés avec une bonne demi-heure d'avance ce matin et beaucoup plus intense. Et la tendance est toujours à la hausse, il vaut mieux être patient.
Voilà, et soyez prudents évidemment au volant. Dans ce journal également, des produits toxiques sous les cours d'école. Des parents d'élèves bloquent une maternelle ce matin à Marseille. Les pépites qui déchirent la Guyane, faut-il autoriser la plus grande mine d'or jamais exploitée en France? La population est consultée à partir d'aujourd'hui. Le reportage de notre envoyé spécial à Mossoul en Irak, 9 mois après le départ de l'État islamique. On verra comment la vie reprend tout doucement dans les écoles. Et puis à la fin de ce journal, le retour de la chanteuse Lio, mais à la sauce brésilienne. Le réveil a sans doute sonné un peu plus tôt ce matin dans des millions de foyers pour ce premier des 36 jours de grève annoncés à la SNCF d'ici fin juin. On reviendra sur les raisons de ce conflit dans un instant, mais d'abord, le parcours de l'usager ce matin pour tenter de monter à bord d'un train, d'un bus ou de tout ce qui peut le conduire au travail, à la fac ou ailleurs. Bonjour Sébastien Sabiron.
Bonjour.
Cette matinée, vous avez choisi de la passer à la gare de Montgeron. C'est dans l'Essonne, à une vingtaine de kilomètres de Paris. Mais ce matin, la capitale semble encore un peu plus loin.
Oui, oui, beaucoup plus loin. Montgeron, c'est une commune de 25 000 habitants, desservie notamment par le RERD. Tous les jours, près de la moitié de la population part travailler à Paris. Alors, dès 6 heures ce matin, il y avait beaucoup de monde sur le quai et assez peu de trains annoncés.
Ils annoncent un train toutes les heures à peu près.
Et habituellement?
C'est un train toutes les 7 minutes à peu près. La difficulté, ça sera de rejoindre Paris.
Bah, le train arrive et vous voyez qu'il est bien bondé, les gens sont dans les couloirs. J'espère qu'on va arriver à se frayer une place.
Vous avez un bus qui part tout de suite pour Boissy-Saint-Léger, si vous le prenez là.
Le Créteil, il est parti ou pas?
Non, mais c'est Boissy-Saint-Léger, c'est aussi rapide.
Là, c'est les premiers naufragés.
Alors pour orienter les voyageurs, les élus du secteur sont mobilisés depuis l'aube. François Durovray est le président de la communauté d'agglomération.
Concrètement, nous avons 7000 habitants qui tous les jours vont travailler à Paris et il y a 4 fois moins de trains là pendant les périodes de grève. Donc nous avons mis en place plusieurs systèmes, un système de bus pour aller vers les stations où il y a des RER et puis aussi un système de covoiturage citoyen où nous incitons les Montgeronnais qui vont travailler en voiture à prendre d'autres Montgeronnais pour tout simplement les aider.
Encore faut-il oser prendre la route. En ce moment, 1h30 pour rejoindre Paris depuis Montgeron. Mais les premiers candidats au covoiturage sont déjà sur le parking.
Bah oui, il y a des places qui sont libres, donc autant qu'elles servent. Bah, la semaine dernière, il y a eu des petits papiers qui étaient sur le parking de Montgeron. J'ai pris pour une journée le train. Et bah, je me suis dit, bah, ce matin-là, je passerai pour voir s'il y a du monde de disponible.
La voiture se remplit, là.
Bah, je vois ça.
Voilà. Vous allez où? C'est quoi votre destination finale?
Saint-Maur-des-Fossés.
D'accord. Et vous, madame?
Pantin.
4 personnes dans la voiture, personne ne se connaît, personne ne va vraiment au même endroit, mais tout le monde relativise. C'est toujours mieux, disent-ils, que de rester sur le quai d'une gare.
Et bon courage, évidemment. Merci Sébastien Sabiron, merci à Olivia Branger qui était à vos côtés à la technique. C'est donc une grève d'usure qui débute aujourd'hui et pour 48 heures, puisqu'elle va se répéter tous les 5 jours pendant 3 mois, du moins si le conflit contre la réforme ferroviaire va jusqu'à son terme. Bonjour Hélène Philippe.
Bonjour.
Officiellement, les 4 syndicats représentatifs de la SNCF sont sur la même ligne, tous en grève, mais ce matin, une première fissure apparaît dans ce front syndical, elle vient de la CFDT et de son leader Laurent Berger.
Il ne souhaite pas un conflit dur, il veut discuter. Laurent Berger le fait bien comprendre ce matin dans une longue interview au Figaro. S'il ne laissera personne cracher sur les cheminots, c'était son expression il y a quelques jours, il ne dit pas pour autant que rien ne doit bouger. C'est clair, la porte est ouverte, le syndicat a intégré l'ouverture à la concurrence et fait des propositions sur les conditions sociales qui vont avec. Laurent Berger l'affirme, il ne se laissera pas enfermer à commenter la situation sociale sous le prisme de la convergence des luttes de la CGT.
Alors on verra ce que répond Philippe Martinez, le patron de la CGT, dans quelques minutes. En attendant, Hélène, de quels outils dispose le gouvernement pour tenter d'amadouer les syndicats dits réformistes?
Il a sûrement des marges de négociation sur le statut, sur le sac à dos social des cheminots qui partiraient à la concurrence. En gros, les acquis qu'il pourrait conserver en quittant la SNCF pour un autre opérateur, même si la question sensible des retraites est remise à plus tard. Le gouvernement sait que la CFDT pourrait y être attentive, mais aussi l'UNSA, deuxième syndicat de la SNCF, réformiste, et son leader, Roger Dillenseger. C'est l'un des personnages clés de l'épreuve de force qui s'ouvre. Une dizaine de réunions sont encore prévues cette semaine avec le gouvernement. Comment les syndicats se positionneront-ils entre la CGT, l'UNSA, la CFDT qui préfère la grève en pointillé et Sud qui lance l'illimité, entre les réformistes qui montrent donc déjà des signes d'ouverture et les autres.
Merci Hélène Philly. Après les gares, il y a aussi les aéroports. Grève à Air France, un quart des vols cloués au sol. Les revendications n'ont rien à voir avec celle des cheminots, elle concerne les salaires, puisque les syndicats réclament 6% de plus. Alors pourquoi mélanger ces deux conflits? C'est un hasard, répond le président du syndicat des pilotes d'Air France, Grégoire Aplincourt. Il l'explique à Laurent Kramer.
Il y a déjà un moment, on a eu l'idée de faire un mouvement un petit peu répétitif. Il se trouve que juste après qu'on ait décidé ça, la SNCF a décidé de faire la même chose. C'était pas voulu. Malheureusement, en France, on est dans un système où il faut en arriver au combat, à la grève. Il n'y a pas moyen de faire bouger quelque chose sans en arriver là. En particulier Air France, c'est comme ça, la SNCF peut-être aussi. Et donc on en arrive à cette situation qui est évidemment très désagréable pour les usagers.
Le président du syndicat des pilotes d'Air France, Air France, où 3 autres journées de grève sont déjà prévues après celle d'aujourd'hui. Et pendant que le thermomètre social s'envole en métropole, il redescend d'un cran à Mayotte. Les leaders du mouvement qui bloque l'île depuis plus d'un mois ont voté hier soir la levée des barrages. On verra si la consigne est suivie des faits ce matin.
Il est 8h07, Marc, du plomb et de l'arsenic sous la cour d'école.
Voilà des années qu'à Marseille, des parents d'élèves s'inquiètent pour la santé de leurs enfants, car 44 écoles de la ville sont construites sur d'anciens sites industriels pollués. Ce matin, ils ont donc décidé de bloquer l'un de ces établissements, la maternelle Oasis, située dans le 15e arrondissement, les quartiers Nord, maternelle où s'est rendue Isabelle Dor.
Cette école a été bâtie à la fin des années 50 sur un terrain que se partageaient une société de pétrole, une entreprise de bitume, un dépôt de liquide inflammable, une savonnerie et un garage. Michel, la gardienne qui y a travaillé pendant 34 ans, souffre aujourd'hui d'un cancer de la peau et elle est persuadée que c'est à cause de la pollution des sols.
J'ai fait faire une analyse de sol. Alors on a trouvé de fortes concentrations de plomb, d'arsenic, de cadmium, de mercure, hautement cancérigènes au fil des années. tout dépassait les normes à respecter. Dans mon jardin et sur l'arrière de l'école où il y a le stade des enfants.
La cour de l'école est goudronnée, mais pas les terrains autour. Et un simple grillage sépare les enfants des sols pollués. Il faudrait tout isoler et dallés, selon les parents, qui dénoncent un scandale sanitaire. Leur porte-parole, Fanny, a elle-même été scolarisée dans cette école il y a 40 ans. Et aujourd'hui, elle est très inquiète pour sa fille.
Elle a beaucoup de bronchite, d'angine, d'asthme. C'est vrai qu'on dit que quand il y a un plomb, ça peut engendrer ça. Bon, après, je ne sais pas. Je vais faire le bilan sanguin pour voir s'il y a un taux de plomb ou pas.
La mairie ne conteste pas cette pollution. Elle promet que d'ici 2025, l'école sera détruite, puis reconstruite après nettoyage des sols. Mais pour les parents, 2025, c'est trop loin.
Le reportage Isabelle Dore pour France Inter. Quand porter plainte devient une épreuve supplémentaire pour les victimes de viol, c'est le résultat d'un appel à témoins lancé par l'association féministe Le Groupe F. Près de 500 femmes et quelques hommes ont raconté la façon dont ils ont été accueillis au commissariat ou à la gendarmerie lors de la plainte. Et dans 9 cas sur 10, les victimes estiment avoir été mal prises en charge, que ce soit par manque de confidentialité ou parce que les faits ont été minimisés. En Guyane, la pépite en vaut-elle vraiment la chandelle? La question déchire les habitants depuis des mois. Faut-il, oui ou non, exploiter le plus grand gisement d'or jamais découvert en France? La première réunion publique prévue ce soir à Saint-Laurent-du-Maroni s'annonce tendue car les deux camps se font face. D'un côté, la promesse de plusieurs milliers d'emplois. De l'autre, des paysages défigurés car il faudra creuser une fosse d'un kilomètre carré pour extraire l'or, Sandy Dauphin.
Montagne d'or serait la plus grande mine de France située en lisière de la forêt amazonienne. Ce projet porté par un consortium russo-canadien prévoit d'extraire 80 tonnes de métal jaune sur 12 ans, 750 emplois directs à la clé, 3000 indirectement. Le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, Léon Bertrand, soutient le projet. Voilà ce qu'il en disait il y a quelques mois sur France Inter.
J'ai des milliers de gamins aujourd'hui qui n'ont pas de travail et moi j'ai besoin d'aller vite parce que au lieu d'avoir une catastrophe environnementale, nous risquons d'avoir une catastrophe humaine.
Les écologistes retiennent surtout que la mine sera située juste à côté d'une réserve naturelle, que la fosse fera la taille de 32 stades de France et s'inquiètent du stockage des boues issues de l'extraction au cyanure. WWF parle d'un mirage économique financé en partie par de l'argent public. Pascal Canfin, directeur du WWF France.
Il ne s'agit en aucun cas de mettre la Guyane sous cloche. Simplement, il faut choisir un mode de développement. Soit on détruit l'Amazonie française pour faire des mines d'or avec des capitaux russes et canadiens, soit on invente un modèle de développement durable basé sur l'écotourisme, beaucoup plus créateur d'emplois que le modèle minier qui font qu'ensuite tous les profits partent au Canada et en Russie.
Le projet Montagne d'or est soutenu par Emmanuel Macron, mais décrié par Nicolas Hulot.
Sandy Dauphin.
8h10, question à présent, Marc. À quoi ressemble la vie d'après en Irak?
Après les interdits, après le règne de la terreur, France Inter est retournée à Mossoul, la deuxième ville d'Irak, libérée il y a 9 mois de l'organisation État islamique. Le centre-ville, où se sont concentrés les combats, est encore un cimetière à ciel ouvert. Mais tout doucement, la vie reprend dans les autres quartiers, les marchés, les écoles, comme celle où s'est rendu notre envoyé spécial. Une ONG française y intervient pour aider les enfants à surmonter leur traumatisme grâce à la musique, notamment. Reportage Géraldine Allo.
Qui aurait pu imaginer cela il y a encore quelques mois? Des élèves qui jouent de la musique dans une école de Mossoul. C'est génial, avant c'était interdit, dit ce garçon, en tapant énergiquement sur le tambour d'une batterie. Zaidan Jawer fait partie de l'équipe de protection de l'enfance au sein de l'ONG ACTED.
Pendant les 3 ans de l'occupation de Mossoul par l'État islamique, tous les instruments de musique étaient interdits. C'est très important que les élèves apprennent qu'il y a un art qu'on appelle musique. Ils ne le savent pas forcément car ils sont jeunes et la musique a été bannie pendant 3 ans. La musique, c'est un moyen de leur faire penser à autre chose qu'aux destructions et aux tueries.
Dans la cour de l'école, une jeune fille joue au basket avec des garçons. Elle s'appelle Gofan. Sous le règne mortifère de l'État islamique, ses parents ont refusé de la scolariser, horrifiés par ce qu'on lui enseignait.
En mathématiques, ils ne nous apprenaient pas à additionner 1 plus 1. Ils nous demandaient d'additionner les bombes. Pendant les cours d'arabe, ils ne parlaient que de djihad et de la manière de commettre des attentats suicides.
Aujourd'hui, les enseignantes s'habillent comme elles le souhaitent. Elles portent des talons, des manteaux cintrés et colorés et on les entend rire dans les couloirs.
Mossoul, le temps de la reconstruction, reportage multimédia à découvrir dès maintenant sur franceinter.fr et demain dans le Zoom à 7h15 sur France Inter. Elle aura été admirée, adorée et parfois détesté en Afrique du Sud. Winnie Mandela, figure de la lutte contre l'apartheid et ex-épouse de Nelson Mandela, est morte hier à 81 ans. C'est elle qui avait porté le combat lorsque son époux était derrière les barreaux et à sa sortie. Mais le couple s'était ensuite éloigné puis séparé. Winnie Mandela prenant des solutions plus radicales, justifiant la violence et critiquant la politique de réconciliation de son ex-époux. Plusieurs affaires judiciaires de corruption et de soupçons de meurtre avaient terni son image, mais elle restait l'une des voix les plus écoutées de l'ANC.
En Russie, c'est une bataille de l'ombre qui se joue en ce moment au Kremlin.
Une bataille de pouvoir pour décrocher le poste de Premier ministre de Vladimir Poutine. Jusqu'ici, le grand favori n'était autre que le sortant Dmitri Medvedev. Mais son principal soutien financier, un milliardaire, vient d'être arrêté, soupçonné d'avoir détourné 35 millions d'euros. Il faut sans doute y voir, Claude Bruyot, le dernier épisode d'une guerre des clans où tous les coups sont permis.
Une à une, les têtes tombent autour de Dmitri Medvedev et celle de Ziavoudine Miagomedov, dont la fortune est estimée à plus d'un milliard d'euros, n'est pas la moindre. Officiellement, c'est un grand classique en Russie, l'oligarque, principal soutien financier du Premier ministre, aurait détourné des fonds publics. À travers cette arrestation, l'entourage de Vladimir Poutine garantit à son président un terrain sans encombre qui réduit désormais à néant l'influence de Dmitri Medvedev, désormais privé de soutien politique mais aussi financier. Alexei Venediktov est rédacteur en chef à la radio indépendante Écho de Moscou.
Je pense que son mandat sera prolongé après l'inauguration du président, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnalités qui veulent qu'il sera faible et qu'il n'a aucune clan, aucun support. Et les frères Magomedov, c'était le soutien de Medvedev en Russie.
Officiellement, bien sûr, le porte-parole de Vladimir Poutine a démenti dès hier le moindre lien entre l'arrestation de l'oligarque et le choix du futur Premier ministre. En coulisses pourtant, chacun attend déjà le prochain rebondissement dans cette lutte impitoyable pour une parcelle de pouvoir au Kremlin. Moscou, Claude Bruyot, France Inter.
Et on se souvient des 70% de Vladimir Poutine récemment à l'élection présidentielle. Il vient d'être battu à plate couture, si l'on peut dire, par son homologue égyptien, le président sortant Al-Sisi, reconduit avec un score de 97% dans un scrutin dénoncé comme une mascarade par l'opposition. Bernard Guetta y revient dans quelques instants.
Il est 8h15, voilà 13 ans qu'elle n'avait plus sorti d'album. Lio revient dans un registre plutôt inattendu.
Oubliez les prunes, les brunes et les bananas split. Cette fois, l'artiste pose sa voix sur le répertoire de l'un des grand nom de la musique brésilienne, Dorival Caymmi, des chansons qu'elle avait entendues enfant et qu'elle reprend aujourd'hui, Mathieu Culeron.
Aconteceu um novo amor que não podia acontecer.
Lio s'attaque à l'un des grands compositeurs brésiliens, Dorival Caymmi. En 70 ans de carrière, il laisse derrière lui une petite œuvre d'une centaine de chansons, mais au Brésil, l'impact est immense.
C'était un sambista, il écrivait donc des chansons pour les sambas, pour chanter, vous savez, en fanfare, le jour du carnaval, pour vous donner la valeur du bonhomme de Caymmi, c'est Caetano Veloso qui dit « Je donne mes 700 chansons contre une seule de Caymmi ». Moi, j'ai très envie de chanter ça, de partager ça.
Et c'est avec Jacques Duval, le compagnon des débuts du Banana Split, que Lio s'engage dans cette aventure.
C'est ça notre lien, quoi. C'est des chansons qu'on a aimées. Jadis, c'était les Ronettes, c'est les Crystals et les Supremes. Je sais que souvent, quand j'aime bien quelque chose, il y a une possibilité qu'elle aime bien aussi. Du coup, à ce moment-là, oui, c'est parti, quoi. La petite flamme est allumée. Et on se met en route, quoi.
Lio canta Caymmi, Lio chante Caymmi, un album apaisant et nostalgique pour le duo Lio-Jacques Duval, un défi réussi pour les habitués du top 50 dans les années 80.
Voilà la voix de Lio, donc, sur son dernier album à découvrir. Enfin, les choses sérieuses commencent ce soir en Ligue des Champions avec les deux premières affiches des quarts de finale, plutôt alléchantes, hein, si on aime le foot, Séville face au Bayern et la Juventus de Turin contre le Real Madrid, Nicolas. La Juve face au Real, c'était la finale, évidemment, que vous aviez regardé de la dernière édition remportée, rappelez-moi, par...
Allez-y Marc, on est pressé.
Je crois que c'était le Real.
Ouais, en plus, vous êtes pas sûr. Merci Marc Fauvel.
4-1 pour le Real.